Amis des ethnologues et des bistrots, bonsoir. Bienvenue à cette 159e séance du bistrot des ethnologues de Montpellier. Ça fait 18 ans que l'aventure a commencé. On vous remercie d'être présent en tout cas. Et puis on remercie certaines institutions qui ont été à l'origine aussi du bistrot, le Conseil général de l'Hérault, la drague du Languedoc-Roussillon. Sans oublier Divergence FM qui n'est pas là ce soir mais qui normalement retransmet le bistrot. La librairie Livret qui diffuse les ouvrages. Je rappelle que les ouvrages de Pascal Diby seront à vendre et il se fera un plaisir de les signer en fin de séance. Et puis surtout le bar de la vieille porte qui nous accueille au pied levé ce soir puisque vous le savez, la laiterie a été incendiée. Alors j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Pascal Diby, qui n'est pas un inconnu pour nous. J'oserais même dire que c'est un pilier du bistrot, puisque c'est la troisième fois qu'il nous fait le plaisir d'intervenir. Alors si mes souvenirs sont exacts, tu étais venu en janvier 1994 pour nous parler de ton livre sur l'ethnologie des prêtres, une tribu sacrée en voie de disparition. Et en fait, je me souviens, tu avais parlé de tout, de ton parcours, de l'Amazonie, de l'ethnocide des Indiens, sauf des curés. Ça arrive. Tu étais revenu en l'an 2000 dans une séance décentralisée et assez singulière au théâtre de Clermont-Lérault également. Alors, tu te définis toi-même sur ton blog comme un ethnologue du quotidien, avec des thématiques de recherche aussi diverses que l'ethnologie de la poche, ou celle de la chambre à coucher. Et j'ai appris que maintenant, ça va être l'ethnologie de la porte. Et il est vrai que ta carrière n'est pas dans la droite ligne d'un universitaire. Étudiant à la fac de Jussieu dans les années 70, à la grande époque des Robert Jolin, Jean Monod et Pierre Clastre, et après une maîtrise d'histoire, tu obtiens ta thèse d'ethno au 75. Et je note que tu as été professeur d'histoire et géo à la Schola Cantorum de 72 à 78. C'est pas rien. En 92, doctorat d'État, HDR, habilitation à diriger des recherches, et tu diriges le labo d'anthropologie visuelle et sonore du monde contemporain. C'est à cette époque, je crois, un peu plus tard, le département d'ethno est malheureusement dissous en 2004. Et depuis cette date, tu es enseignant-chercheur à l'université Paris 7, Denis Diderot. Alors, tu es auteur de nombreux ouvrages et articles, j'en retiendrai quatre. Le village retrouvé, paru chez Grasset en 79, moi j'avais cette édition en tout cas. Ethnologie de l'intérieur, une sorte de topologie de tes lieux de l'enfance. Ethnologie de la chambre à coucher, 1987, traduit en 18 langues, 15 langues, avec de nombreuses rééditions. Évocation de la chambre que tu as dû garder longtemps, j'ai lu ça, pour cause d'une longue maladie. Quand j'étais petit. Bon. Les pieds sur terre, entretien avec André-Georges Audricourt, quelqu'un que j'ai connu aussi, un dinosaure formidable, un passe-muraille, qui passait de la linguistique à l'agronomie et à l'anthropologie. Le village métamorphosé, paru en 2006 dans la collection Terre humaine, où tu revisites ton village d'enfance, après 30 ans après ton premier ouvrage. Et puis ce soir, tu viens nous parler d'un ouvrage collectif, catalogue d'une exposition éponyme organisée par le musée du Quai Branly, et dont tu as assuré la direction, donc Tarzan. Alors, il se trouve que moi-même, je suis un grand fan d'Edgar Rice Burroughs. Hein. Je suis collectionneur aussi des vieilles éditions de Tarzan, donc j'ai hâte de t'entendre évoquer les relations entre ce héros populaire et écologiste, ce préposé à l'oxygène, pour reprendre la formule de Francis Lacassin, et puis les relations donc avec notre imaginaire ethnologique. Et sans plus attendre, je te passe la parole.
Bien, bonsoir. Écoutez, effectivement, Tarzan est venu me chercher. C'est pas moi qui suis allé à Tarzan, c'est lui qui est venu. On m'a demandé si je voulais pas participer à l'exposition Tarzan du Quai Branly. Et en fait, c'est un vieux compère, Roger Boulet, avec qui on avait fait quelques années auparavant au musée des arts africains océaniens l'exposition Cannibal et Vainé. Et donc, il m'a demandé si je voulais pas assurer le catalogue pour l'expo Tarzan. Je dois avouer que j'avais lu Tarzan enfant, en petite BD comme ça, mais j'étais pas tarzanologue du tout. Et je me suis un peu penché sur la question et finalement j'ai lu Tarzan et ça m'a beaucoup amusé. J'avais jamais pensé que c'était aussi, signifiant d'une époque et d'un regard justement sur la question de l'évolution, sur la question de l'autre, sur le colonialisme. Et avec un avantage certain par rapport à notre culture occidentale, c'est que Rice Burroughs est américain. Et donc, il a traduit notre darwinisme européen, si je puis dire, à sa façon. Évidemment, ça implique aussi un espèce de génisme étrange et autre chose. Mais toujours est-il que la fiction Tarzan, il ne faut jamais oublier que c'est une fiction. C'est-à-dire que Rice Burroughs est un auteur de fiction, mais plus que ça, c'est un auteur de science-fiction. Donc, c'est un personnage inventé, effectivement, mais c'est un personnage, finalement, qui est peut-être, là aussi, une espèce de... Si ça a si bien marché, c'est qu'il y a eu un écho dans des mentalités qui étaient prêtes à entendre des choses ou qui cherchaient quelque chose de très particulier. Et je suppose qu'effectivement, dans les années 14, quand le premier Tarzan est sorti, il devait y avoir cette préoccupation dans cette société qui sortait du 19e siècle, complètement inscrit dans l'histoire scientifique. Il y avait aussi sans doute... ce désir sûrement de retourner à la nature. Il y avait quelque chose, une grande interrogation sur l'autre, et notamment l'autre homme, et derrière aussi ce premier regard qui va se développer à partir du darwinisme sur les animaux. Jusque-là, on regardait des bêtes, et voilà qu'on va commencer à regarder des sociétés animales. Donc, ce qui s'est produit, je veux dire, on ne peut pas parler de Tarzan sans parler de Rice Burroughs, je vous dis, c'est une œuvre, évidemment... qui est une œuvre de fiction inventée, c'est un roman bien entendu. Si j'y voyais quelque chose, je pourrais lire des choses, mais j'y vois rien du tout. Il y a pas de, ils ont pas électricité assez. Ah, voilà. Ah bon, d'accord. Merci. Oui, donc il se trouve que Edgar Rice Burroughs, c'est quelqu'un qui avait un peu raté sa vie. Il en était à sa 40e année. Il avait essayé de s'engager dans l'armée, mais il avait été assez nul, ils l'ont pas gardé à West Point. Il avait voulu devenir cowboy quand il était petit, mais il était très mauvais, très malhabile et peu résistant. Il tombait de cheval tout le temps, etc. Donc c'était un mauvais cowboy. Il avait essayé de créer sa propre boîte, mais il était incapable de faire quoi que ce soit. Et finalement, c'est la rencontre avec un ami journaliste qui s'appelle Robert Davis, qui a proposé à Edgar Rice Burroughs de lui faire un feuilleton. C'est comme deux copains qui se disent, écoute, je vais te sortir de là. Il lui a donné $700 et en échange, il lui a demandé d'essayer d'inventer quelque chose qui pourrait passionner les gens. Et il se trouve que Rice Burroughs, qui était un petit peu en déshérence, avait passé une année à fréquenter, à humer, à respirer la Chicago Public Library. Et il avait déjà une attirance certaine, je vous ai dit, pour la nature. C'était son histoire de 16 ans quand il a essayé d'être cow-boy, où il a eu un fantasme absolu sur le monde naturel. Et là, c'est revenu, et notamment, il a lu, à cette époque-là, donc 1911, il a lu un anthropologue qui a eu un rôle très important dans notre histoire coloniale, c'est Stanley, qui était parti, vous savez, faire des repérages pour le roi des Belges, et auquel le roi des Belges avait confié la proposition de créer sa fameuse empire privé, qui comportait évidemment le Congo, dans lequel il allait simplement faire une propriété. Donc il a lu Stanley, In Darkest Africa, donc on est déjà dans l'histoire de l'Afrique profonde, comme ça. Il a été très impressionné, bien évidemment, par Kipling, et aussi bien par deux bouquins, The Call of the Wild et The Sea Wolf, dans un cast intéressant, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va partir vers l'ensauvagement, et inversement, si vous voulez, c'est un chien civilisé qui retourne à l'état sauvage. Donc il y a l'animal qui repart vers le sauvage, et de l'autre côté, l'aventure d'un homme sophistiqué qui va s'adapter à la vie primitive. Voilà qu'on approche. Il a lu Kipling, il a lu Mowgli, il a eu là un sentiment très fort de quelque chose qui était comme ça dans l'air. Il a lu aussi un anthropologue qui s'appelle Taylor, et Taylor, T-Y-L-O-R, je sais pas comment on le prononce en français ou en anglais. Toujours est-il que c'est un spécialiste des Indiens Caribes qui a travaillé beaucoup sur le monde, je dirais, sauvage des Indiens. Et puis, Rice Burroughs avait un fantasme absolu, c'était celui de Romulus et Rémus. L'histoire de la fondation de Rome, de ses enfants jumeaux élevés par une louve. On est encore dans l'histoire là, du sauvage et du civilisé, de l'urbs, c'est-à-dire à la naissance de la ville. Ces enfants élevés par un animal qui va leur donner toute la civilité. Donc il faut un petit peu chercher de ce côté-là. Mais la rencontre qui a été pour lui la plus importante, c'est un soir dans un bistrot des ethnologues. Ça s'appelait le Café de la Porte à Chicago, bien connu. Il a rencontré un type qui est peut-être là ce soir, qui s'appelait Dan the Monkey, qui racontait qu'il avait été élevé par des singes en forêt en Afrique. Et il lui a raconté cette histoire-là. Évidemment, ça a fait tilt chez Rice Burroughs. Et il s'est dit, voilà, ce type raconte qu'il a été élevé par des singes, et comme l'histoire des gens élevés par les loups, etc. Et à ce moment-là, à partir de là, avec son origine, je dirais, personnelle, son père était donc américain, mais très inspiré par les Anglais. Notamment, il a essayé de donner à ses enfants une éducation victorienne. Donc très inscrite, je dirais, dans cette dimension anglaise de la noblesse, des lords, etc. Et Burroughs imagine à ce moment-là, pour faire un feuilleton pour son copain Robert Davis, un enfant, je cite, « un enfant d'une race solide, marqué par un caractère héréditaire plein de finesse et de noblesse, transféré dans un environnement le plus diamétralement opposé à son milieu d'origine que j'ai pu imaginer. » Et donc on est en 1912, et il vient d'inventer Tarzan. Il va sortir des Tarzan en feuilleton et vient d'inventer Tarzan of the Ape, c'est-à-dire Tarzan chez les grands singes, enfin en gros. Et son premier ouvrage sort en 1914, et derrière vont suivre 26 volumes de Tarzan jusqu'en 1940. Il va vendre 30 millions d'ouvrages de son vivant, et il va donc avoir un succès phénoménal. Plus d'autres ouvrages de science-fiction, il va écrire énormément et donc il va se révéler être un écrivain de science-fiction finalement. Donc je vais revenir sur Tarzan parce que c'est intéressant du point de vue ethnologique de s'amuser à revisiter Tarzan, parce que finalement moi je l'avais jamais lu. Je l'ai lu tout de suite, je dirais, comme ethnologue, c'est-à-dire que j'ai été assez vite à l'exégèse de la chose en me demandant à chaque ligne que je lisais ce que ça voulait dire. Et je crois que c'était plus amusant peut-être pour moi que de l'avoir lu. J'ai lu les BD quand j'étais enfant. J'ai été fasciné par la finesse de ce garçon, etc., c'est un corps très féminin, très élancé, très fin, en même temps féroce, rapide, véloce, etc. Mais Tarzan est aujourd'hui l'égérie essentiellement du milieu homosexuel. Hein. C'est pour eux l'homme parfait, c'est un canon absolu. Donc c'est intéressant de savoir que les collectionneurs de Tarzan, c'est essentiellement, je les ai rencontrés, donc des gens. Et l'art qui a été développé autour de Tarzan, il y a pas mal de biscuits, enfin des biscuits, vous savez, des choses cuites comme ça. Il y a des statues très belles, très, très, très féminines du personnage, etc. Donc c'est assez amusant de voir l'histoire de Tarzan. À ce propos, il faut savoir que j'espère qu'il n'y a personne de la société Tarzana, du ranch Tarzana qui est en Californie, parce qu'on n'a pas le droit de dire des mauvaises choses sur Tarzan. Et quand on a préparé l'exposition pour le Quai Branly, on a signé un accord avec la société Tarzana, donc les héritiers de Tarzan, l'obligation de ne sortir aucune... comment est-ce qu'on dit ? Il y a plein de... Comment ? Bon, je sais pas, il y a des Tarzans porno, il y a des Tarzans, etc. Et le seul article intéressant qu'on a eu sur l'expo, c'est Charlie Hebdo qui a écrit « Exposition censurée » et qui a sorti tous les Tarzans porno qu'on puisse imaginer. Donc c'est intéressant, si vous regardez Tarzan érotique, vous allez voir, il y en a des milliers et des milliers, c'est vraiment c'est assez extraordinaire. Donc je ne vais pas développer là-dessus, mais simplement pour vous dire qu'on avait une obligation à ne pas parler justement des caricatures et autres de Tarzan. Ils nous interdisent de le faire et c'est comme Walt Disney, ils sont extrêmement sévères, ils sont aux aguets absolus de partout. Donc je voulais reprendre l'histoire de Tarzan tout simplement parce que finalement c'est une histoire très amusante dans la mesure où elle est assez simple. Vous la connaissez, vous avez peut-être vu le film Greystock, vous n'avez pas vu Les Vieux Tarzan, avec Christophe Lambert. Donc vous savez l'histoire, c'est les parents de Tarzan, son père Clayton, John Clayton et sa femme Lady Alice, qui sont en partance en fait pour le Congo pour aller étudier la richesse des sous-sols pour pouvoir exploiter ce fameux empire privé du roi des Belges. Et ils vont rejoindre Stanley là-bas, etc. Et puis finalement, il y a une mutinerie sur le bateau qui les emmène en Afrique. Et ils sont débarqués sur une côte africaine et ils se retrouvent avec leur mâle, sans personne. Finalement, ils construisent une petite cabane sans espoir de s'en sortir. Dans cette histoire-là, Lady Alice devient complètement dingue parce qu'elle était une lady et elle pense à un moment donné, elle devient folle, elle perd, je dirais, un petit peu le sens des réalités. Elle est persuadée qu'elle est à Londres. Et elle ne sait absolument plus où elle est. Et finalement, quand ils sont arrivés, ça allait à peu près bien. Un an plus tard, va naître ce petit bébé qui s'appelle Tarzan. Mais entre-temps, dans cette jungle terrible habitée par des grands singes, il va y avoir quelques visites de hooligans. Et il y a un des grands singes qui va faire très très peur à la mère de Tarzan, qui va en tomber complètement folle, effectivement, et qui va tuer le père de Tarzan également. Donc, non, l'histoire, c'est plus compliqué. C'est qu'en fait, elle devient folle. Et le jour où elle accouche, arrive le grand singe Kerchak. Et il tue son père. Mais il était avec la guenon Kala. Et Kala était poursuivie par son mari, qui ne supportait pas son petit singe, son petit enfant. Et dans la fuite, elle a laissé tomber son bébé, qui est mort en tombant d'un arbre. Et quand elle a vu Tarzan vagir dans son petit berceau à l'intérieur de la cabane, elle l'a adopté immédiatement, elle est repartie avec Tarzan, elle en a fait son enfant. Donc voilà comment Tarzan est rentré dans le monde des singes. Alors ce qui est intéressant, je le dis maintenant parce que je ne vais pas développer sur la famille Tarzan, mais sachez que Tarzan a un fils, c'est Boy, et Boy est tombé d'un avion, il l'a retrouvé, c'est-à-dire que c'est toujours... la conception immaculée. Donc c'est intéressant parce que c'est pas son fils tout en étant son fils par un système d'adoption. Et Rice Burroughs, c'est marrant pour ça parce qu'il est, c'est assez amusant de voir les choses. Bon, toujours est-il que donc Tarzan va grandir dans cette société de singes que Rice Burroughs appelle les anthropoïdes, ce qui lui permet de mélanger les connaissances qu'on avait sur les orang-outans, sur les chimpanzés, sur les gorilles. Et pas les bonobos, il les a oubliés, sinon ça aurait été assez hard comme roman. Donc il les a mis de côté, mais il vit comme ça dans cet univers de grands singes. Et ce qui est tout à fait formidable quand même, c'est que finalement dans les années 14, enfin 12, quand il a commencé à écrire, il y avait relativement peu d'études, à part le darwinisme et les naturalistes, sur le monde simiesque. Et finalement il a eu une intuition des choses, c'est-à-dire que il a été tellement embarqué par son aventure qu'il a anthropoisé, anthropomorphisé son roman, merci, et regardé le monde des, il m'a fait boire, alors c'est une catastrophe, regardé donc le monde des singes autrement. Et dans cette histoire-là, Tarzan va grandir, mais voilà que ce n'est qu'un homme. Et quand Tarzan a 10 ans, il est toujours petit. C'est un petit homme très musclé, très agile, mais il a quand même deux défauts, c'est qu'il est tout petit par rapport à ses frères et sœurs, qui sont immenses et poilus, et lui est tout petit et tout nu. Donc ça commence à poser un problème, mais comme il est malin, donc c'est ce que raconte Rice Burroughs, à 10 ans, c'est un véritable athlète qui sait grimper partout, qui est plus agile que les autres, etc. À 12 ans, il commence à apprendre à lire. Alors, quand les Clayton sont arrivés au Congo, ils ont apporté avec eux une bibliothèque. Et donc, il va visiter cet endroit qui est quand même là. Il sent bien qu'il y a quelque chose de semblable parce qu'il voit des bouquins avec des images et il voit des choses. Donc, il apprend pas à lire, mais il apprend à dessiner. Et il dessine des lettres, il va savoir écrire « homme », il va savoir écrire « archer », il va savoir écrire « ciel »,« couleur », etc. « Femme ». Donc il apprend à regarder des images et à dessiner des images qui disent un certain nombre de choses. L'adolescence arrive, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Reichsbürger est absolument muet sur ce passage-là. Il arrive à 18 ans, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé, l'adolescence. Et finalement, à 18 ans, il commence à devenir le roi de la jungle parce qu'il est quand même très très habile. Mais entre-temps, c'est marrant parce que je pense qu'il a lu lire ça chez les anthropologues. Comme toutes les sociétés traditionnelles, vous savez qu'on toutes les sociétés traditionnelles font ce qu'on appelle des jeux de ficelle. Nous, on appelle ça la tour Eiffel, le pont, le machin. Mais dans toutes les sociétés, ça soit chez les Esquimaux, il y a des études de 1000 pages là-dessus, ou chez les Yanomami, il y a toujours des jeux de ficelle. Et chez les singes, il y a aussi des jeux de ficelle. Mais pourquoi ? C'est que Tarzan, finalement, va finir, à force de faire des jeux de ficelle, par tresser une corde. Et cette corde, eh bien, Reichsbürger est américain. Je vous ai dit, il avait un fantasme d'être cow-boy. Et Tarzan va être le meilleur au lasso. Et sa grande supériorité sur les autres singes, ça va être de pouvoir les prendre au lasso et de les tirer comme ça. Donc il fait tomber son père, il fait tomber tous les méchants, il les prend au lasso, il les fait tomber, etc. Et évidemment, il a une technique très particulière qui va revenir plus tard, là aussi dans son histoire plus tardive. Mais je vous dis quand même qu'il savait lancer le lasso. Donc ça, c'est très très important. Et chez Tarzan, il y a un désir très certain de technique. Alors là, on peut s'amuser effectivement à relire la technique chez Tarzan, mais ce qui est amusant, c'est que Reichsbürger ne retire pas aux singes l'idée de technologie. Et aujourd'hui, on sait très bien à travers l'étude des primates qui s'est largement développée, par exemple, on a défini chez des chimpanzés plus de 54 opérations techniques de préparation d'aliments, de phénomènes techniques comme de prendre des petites pailles pour aller chercher des fourmis, laver des fruits, de casser des noix, etc. On a trouvé des lieux de production en réalité. Donc ça, c'est amusant de quand on regarde un petit peu comment lui avait vu les choses. Il les avait pas mal vues quand même. Et parmi ces techniques, il y a un certain nombre de techniques qui sont là. Notamment, ça aussi, c'est quand on lit les choses comme ça de près, un jour il tombe à l'eau et Tarzan se met à nager. Alors, dans les romans de Reichsbürger, Tarzan est relativement peu souvent à l'eau. Il tombe dans l'eau ou il est obligé de franchir un fleuve. Mais c'est à travers la filmographie de Tarzan, où il y a eu 42 films qui ont été faits sur Tarzan, et notamment le rôle de Johnny Weissmuller. Évidemment que l'aquatique a pris largement sur la forêt, sur la sylve. Donc, ce qui m'a amusé dans les techniques de natation de Tarzan, je pensais aux techniques du corps de Marcel Mauss, justement, mais la seule comparaison que fasse Reichsbürger par rapport à la nage de Tarzan, c'est de dire qu'il savait nager comme un chien. Or, il n'a jamais vu un chien de sa vie. Et en réalité, il était très proche de Horta le sanglier. Il aurait pu raconter qu'il savait nager comme Horta. Mais non, il a nagé comme un chien. Donc j'ai pensé que c'était une façon d'humaniser aussi Tarzan, de montrer que finalement le chien qui s'est autodomestiqué autour des hommes, peut-être que la proximité de l'élément canin pouvait rendre plus humain la dimension, je dirais, de Tarzan. Donc la façon de nager, généralement, est directement liée à notre univers culturel propre. Il y a des sociétés, vous savez, qu'on nage en aspirant, d'autres en toussant, des troisièmes en etc. C'est ce que raconte Marcel Mauss, qui est très amusant. Il a appris à nager à l'époque des bateaux à vapeur. Et on disait aux gens qui apprenaient à nager de faire pouf, 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 comme ça dans l'eau. Aujourd'hui, on en est à la combinaison de marsouins, donc nos nageurs vont à toute vitesse. Mais c'est toujours par imitation d'un phénomène culturel contemporain. Et ça, c'est assez amusant. Et puis dans cette histoire, donc, Tarzan commence à prendre conscience de son corps. Il est comme... comment il s'appelle, celui qui se regarde dans l'eau et qui ne voit que son visage? Merci, comme Narcisse. Je suis complètement bourré, moi. Bon, j'aurais pas dû boire de vin. Il est comme Narcisse, il regarde dans l'eau. Et les autres singes commencent à se foutre un peu de lui, du fait qu'il ne soit pas poilu et que les poils ne viennent pas. Et en même temps, il voit dans les images qu'il retrouve dans la maison familiale qu'il ressemble quand même peut-être à cet homme, ce fameux homme. Mais ces hommes quand même avaient quelque chose en plus, c'est qu'ils portaient un vêtement. Et ce qui fait l'humanité, c'est le fait de se vêtir. Alors Tarzan avait déjà essayé, quand il avait tué Samba. Samba la lionne était rentré dans sa maison pour l'ennuyer. Il l'avait prise par la queue, tapée contre un arbre, il l'avait tuée assez facilement. Et il l'avait dépouillée avec l'idée qu'il allait se faire une cape avec la peau du lion, de la lionne. Et c'est dit dans Rice Burroughs, mais Tarzan ne savait pas tanner les peaux. Et donc il avait loupé la peau de la lionne, elle était complètement sèche, etc. Et il n'arrivait pas à devenir roi des animaux parce qu'il n'arrivait pas à se faire une cape de roi. Donc c'est assez, assez rigolo. Et finalement, il réfléchit à cette question-là. Donc il y a des choses absolument magnifiques. Et c'est un soir, à la suite d'un orage, dans le froid et l'inconfort d'une pluie battante, qui glisse mieux sur des poils que sur la peau nue de Tarzan, dont il était inconsciemment fier, écrit Burroughs, qu'il prit conscience de son appartenance à une race puissante. Et donc, il a l'idée qu'il faut absolument, Rice Burroughs, il n'empêche que depuis son enfance, il était constamment partagé entre le désir de rester nu pour que tous voient la preuve de ses origines et celui de se conformer aux usages de sa race et de se revêtir ses ornements hideux et mal commodes. Bon, donc il est là, il y a des passages magnifiques sur la façon dont il se regarde, il se demande ce qu'il fait tout nu, etc. Bon. Et là-dessus, arrive un jour, dans la forêt, il découvre des traces qu'il n'avait jamais vues jusque-là, qui n'étaient pas les siennes, il découvre des traces de pieds. Et il se met à les suivre, c'est un peu comme il se suivait lui-même, et il tombe sur un millier de personnes. C'était des Africains qui étaient en train de fuir les lois iniques du Congo belge, qui s'étaient cachés dans la forêt parce qu'ils étaient poursuivis par l'armée qui voulait les tuer parce qu'ils avaient... Alors c'est intéressant, Rice Burroughs, mais là on commence à être dans cette espèce de sociobiologisme, je dirais, darwinien de Rice Burroughs. Ce qui était grave, c'était pas d'avoir tué des Noirs, c'était d'avoir tué le capitaine, un Blanc. Donc ils étaient poursuivis pour ça, ils étaient un millier, mais à part ça, ça va. Et donc, parmi ces personnes-là, évidemment, je suppose qu'ils chassaient, il y avait le fils d'un chef qui était un grand chasseur, et ce chasseur, assez naturellement, pour manger, avait tué un singe. Et parmi les singes qu'il avait tués, il avait tué surtout Kala, la mère de Tarzan. Donc il était bien évident que Tarzan avait l'intention de se venger de la mort de sa mère. Et il part à la chasse de ce chasseur et il l'observe. Alors ça c'est formidable. Parce qu'il l'observe et c'est là où Tarzan est dans la nature et Rice Burroughs finalement a un aspect naturaliste très fort quand même. Et il le regarde chasser, il regarde comment il dépouille l'animal et surtout comment il mange. Il le voit faire un feu et il le voit... manger à satiété, quand il a plus faim, il se lève, il s'essuie les lèvres, il s'en va, il se barre et il laisse la bouffe. Tarzan, un bon animal, se dit, il faut absolument que je fasse un garde-manger pour demain matin. Il descend, il récupère les restes du chasseur qu'a laissé la viande et il se dit, il n'est pas normal ce type, il laisse à bouffer alors qu'il faut planquer dans des petits garde-manger comme font nos chiens, nos machins, etc. L'idée de mettre la nourriture de côté. Il continue à suivre ce garçon et puis finalement... Il a une espèce d'attachement pour lui et puis ça se transforme un peu comme le chat et la souris. Il joue un peu avec lui et finalement il se dit bon ben maintenant il faut pas que j'oublie qu'il a tué ma mère. Donc il l'attrape au lasso et apparemment c'est pas dit mais il semblerait qu'il l'ait étranglé. Et puis arrive le moment où il se dit bon ben puisque c'est une proie je vais la manger. Et au moment où il approche les lèvres de la peau de ce garçon, il se met à vomir. Et donc on est là dans un phénomène d'humanisation très forte de Tarzan, où il se rend compte que le cannibalisme, non, les hommes ne peuvent pas être cannibales. Alors, ceci dit, dans la description de Rice Burroughs des Africains qui arrivent, ils sont décrits comme cannibales. Mais les Noirs pouvaient être cannibales, le Blanc noble ne peut pas être cannibale, évidemment. Une fois de plus, c'est l'héritage sociobiologique qui ressurgit, qui montre toute la noblesse du personnage, qui est incapable, lui, de manger de l'homme. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, donc, il dit non, il ne mange pas, il va s'en servir, c'est très intéressant, il va s'en servir comme cadavre. Mais avant ça, je vous ai dit qu'il avait un désir d'humanisation absolue, et il se trouve que ce garçon portait un pagne, une culotte en daim, un pagne, et il va lui piquer son pagne qui va enfiler. Et donc voilà le pagne. Hein. Et voilà donc pour la première fois, Tarzan est humanisé et il est habillé. Et ce qui m'amusait dans cette histoire, c'est du prêt-à-porter. Il n'a pas eu besoin de l'inventer. Il suffit qu'il mette la culotte du garçon pour devenir un humain. Et il emmène le cadavre de ce garçon dans le village où il fait peur à tout le monde. Enfin, donc il rentre dans les ruses, dans une histoire aussi très, très humaine. Et il revient chez lui en slip. Alors voilà, c'est ça Tarzan, il est toujours en slip. Et complètement admiratif, il va pavaner chez ses copains. Et il dit, voilà, maintenant il était vraiment habillé comme doit l'être un homme et personne ne pouvait plus douter de sa haute naissance. Depuis qu'il a un slip, il est, il est hautement culotté. Et donc, après avoir emprunté sa culotte à l'Africain, il y a toute une histoire où il y a une histoire de doum-doum, de bataille, il tue singe, il dit je suis le roi des singes, etc. Et il va finalement... revenir sur cette, j'allais dire sur cette histoire effectivement de racisme, bon, qui est à l'intérieur de cette histoire de Tarzan effectivement, mais en fait, si vous voulez, c'est là où il y a une autre lecture qui peut se faire de Tarzan. C'est toute l'histoire de l'héritage socio-biologique, c'est-à-dire là, je parle de Rice Burroughs directement. Où en fait, dans ses lectures en bibliothèque, Rice Burroughs avait un penchant très fort pour la science, et il avait lu à la Public Library le discours sur l'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes, l'introduction à la science sociale, donc de Spencer, l'évolution à l'origine des espèces de Huxley, le déclin de l'Occident. Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle de Huxley. Il avait lu Darwin, The Origin of Species by Means, etc. Et donc, finalement, il avait été, je dirais, de certaine façon, très touché par l'idée qu'on pouvait expliquer la société humaine par des schémas, je dirais, hiérarchiques, qui était finalement cette espèce de racisme lié justement à cet héritage socio-biologique qui va conduire à l'eugénisme. Et il avait notamment développé une espèce de folie, Rice Burroughs, par rapport au déterminisme biologique, pensant même que c'était la nouvelle explication de l'histoire humaine de son époque, contemporaine, que quand on avait compris ça, on avait compris toute l'histoire du progrès social et les possibilités de sa réforme. Moi, je pense qu'il a entendu parler forcément de l'essai sur les inégalités des races humaines, qui était paru en 1855, et qui a dû avoir une fascination pour cette histoire, effectivement, d'échelle raciale, et qui a rejoint ce fameux déterminisme biologique, à mon avis, de façon très, très importante. Et donc, dans ce début du XXe siècle, il y avait un rapport très profond entre le courant social darwinisme et puis l'idée aussi américaine du struggle for life, c'est le plus fort qui va vaincre l'autre, c'est l'idée effectivement d'une idéologie qui aujourd'hui dans tous les discours libéraux, on réentend les plus forts, ceux qui veulent travailler travailleront, ceux qui veulent de l'argent ont de l'argent, etc. etc. Et la lecture qu'ont fait les Américains de Tarzan est intéressante, parce qu'ils ont relu Rice Burroughs comme étant effectivement un des chantres de ce social biologisme, si je puis dire. Et on dit, à propos de Tarzan, que Tarzan permit à l'Amérique de se réassurer la suprématie de l'homme blanc sur ses femmes et sur ses noirs. Donc il a bien servi au racisme. On lui a reproché beaucoup plus aujourd'hui le sexisme, l'aventurisme, l'ultra-individualisme. Mais on lui a jamais tellement reproché, si vous voulez, sa dimension raciste. Et ce héros anglo-mâle, comme on dit, a toujours joué sur la dimension négative des sociétés non blanches, où, je cite Rice Burroughs, les Noirs sont de façon générale superstitieux, les Arabes rapaces et les femmes à soumettre. Donc on est là quand même dans une histoire assez particulière, mais que je vais essayer d'éclairer avec l'histoire de Jane. qui est un personnage important dans l'aventure de Tarzan. Tarzan est donc avec sa culotte et pavane sur son territoire. Et arrive à ce moment-là les Clayton dans cette baie. Et il voit du haut, d'ailleurs, on montre toujours une truc où il aperçoit la barque arrivant. Il voit une jeune femme blanche de très loin, comme ça. Et tout de suite, quelque chose se produit. On ne sait pas quoi, mais il y a en tout cas un phénomène particulier. Et quand ils vont aller dans la maison, Tarzan s'approche, voit cette femme toute blanche et il y a quelque chose qui se passe. Et donc d'ailleurs, il va tomber amoureux. C'est pas encore dit parce qu'il sait pas ce que c'est. Mais toujours est-il que ce Tarzan qui a la force d'un éléphant, l'agilité d'un singe, la bravoure d'un lion, qui ne parle pas un mot d'anglais, va réussir à laisser un dessin à l'intérieur de la cabane pour dessiner à Jen ceci. Alors il écrit en lettres majuscules: ceci est la maison de Tarzan, le chasseur de fauves et d'hommes noirs. N'abîmez pas ce qui appartient à Tarzan. Tarzan surveille, signé Tarzan, des grands singes. Alors Jen trouve ce petit mot en revenant dans la cabane. Et elle dit: tiens, c'est très curieux, on a laissé un petit mot sur la porte et là où on s'est installé, et c'est signé Tarzan des grands singes. Ça doit être un garçon qui doit savoir écrire, etc. Et donc cette blanche éduquée pense que effectivement ça peut être qu'un homme qui sache écrire, éduqué, parler anglais, etc., puisque c'est quand même dessiné en anglais, si je puis dire. Et en même temps, elle ne va jamais pouvoir associer les deux personnages. L'histoire érotique de Jane avec Tarzan ne va jamais être liée à l'histoire intellectuelle de Jane avec l'écrivain. Enfin, l'écrivain relatif, celui qui laisse des mots doux. Et toujours est-il que Tarzan lui marque le territoire en disant « je veille sur vous ». Il veille notamment sur la jeune femme. Et évidemment, la jeune femme est courtisée par l'assistant du professeur Porter qui s'appelle Clayton et qui dit... je ne sais pas qui a pu laisser ce mot, mais si jamais c'est un simien échappé du zoo de Londres qui serait revenu dans sa jungle natale avec une éducation européenne. Parce que il se dit, c'est le type qui a pu laisser un mot pareil, il a forcément vécu en Angleterre, et on va voir un peu qui on trouve. Mais papa, c'est Sping, la jeune fille, vous n'avez encore rien dit, parce que papa n'avait rien dit. Et l'homme de science a besoin de preuves pour dire les choses, donc il dit rien. Évidemment, Jeanne frissonne de plus en plus et elle se demande bien qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et dans cette histoire-là, à un moment donné, ça se passe un tout petit peu avant, j'ai un peu interverti les scènes, mais si vous voulez, à un moment donné, Jen est dans la maison et il y a un lion qui rentre pendant qu'elle est dans la maison. Tarzan veillait, il rentre, il prend le lion par la queue, il le vire et il disparaît immédiatement. Et alors, elle dit, Jane, qu'un homme nu fasse sortir d'une fenêtre en le tirant par la queue un fauve mangeur d'hommes, tout en griffes et en crocs, pour sauver une jeune fille étrangère, c'est quand même un héros, ce type. Et elle ne peut pas faire le rapport entre celui qui a laissé un mot et ce héros absolu. Et donc, par contre, vous savez que Tarzan avait un cri... terrible après chaque conquête ou chaque bagarre, oh, 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 etc. Vous savez, tout le monde sait le faire. Et elle ajoute quand même derrière, parce qu'elle pense que c'est pas le même homme, ce cri épouvantable, c'est Jane qui parle. Quel cri effrayant, je frissonne encore rien qu'à y penser. Et elle ajoute, vous ne me ferez pas croire qu'il sortait d'une bouche humaine. Toujours est-il que qui qu'il soit, nous lui devons la vie. Voilà. Et donc, elle pense qu'il y a deux personnages qui tournent autour d'elle, ce sauvage et ce lettré. Alors, dans cette histoire, les singes s'intéressent assez à cette jeune fille blanche aussi. Et il y en a un autre qui s'intéresse, qui l'aperçoit, qui dit quelle jolie proie. Et il décide de s'emparer de cette proie particulière. Et donc... Il enlève, il s'appelle Tubla, et il enlève, grand tueur, et il enlève Jen dans ses bras. Et Jen, donc, se retrouve partie dans un voyage aérien de branche en branche. Et la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est vraiment une américaine, il avait les dents jaunes et il sentait mauvais. C'était, en gros, c'est là, c'est tout. Pour le reste, ça allait pas mal, mais ça, c'était très dur. Donc, c'est un réflexe extraordinaire, je sais pas si... Et donc, Tarzan est fou furieux parce que quand même, il y a eu la cérémonie du Dom Dom, il a l'intention de se battre et donc il va tuer le méchant qui a enlevé Jane. Et finalement, il va aller récupérer Jane qui est un peu perdue quand même dans la forêt. Elle sait pas très bien où elle est. Et donc, il s'approche de Jane et il l'enlève. Cette fois-ci, le sentiment n'est pas le même. Elle est enlevée dans des bras puissants d'un homme blanc qui l'emmène dans un voyage aérien tout à fait particulier. Et évidemment, Tarzan, il lui est difficile de vaincre sa timidité sauvage, comme dit Rice Burroughs. Donc il est très timide avec Jane, il ne sait pas comment s'y prendre. Et la timidité fait partie aussi de l'humanisation du personnage, qui est assez amusante. Et finalement, Tarzan dépose Jane dans un endroit sûr, dans un petit nid, là, comme le Marsipulami, et il va lui chercher des fruits frais. Il revient... Et Burroughs écrit, c'est quand même mignon, Tarzan resta planté devant la porte à attendre leur retour. Parce qu'en fait, Jane a disparu, il attend Jane pour la revoir, mais elle n'est toujours pas revenue. Il est de plus en plus impatient, et il est impatient peut-être même de la toucher. Alors ça, c'est nouveau. Et donc, il décide finalement, malgré sa timidité, de lui remettre un mot. Et donc voilà le Tarzan intellectuel qui recommence. Je suis Tarzan des grands singes, je vous veux, je suis à vous, vous êtes à moi, nous vivrons ensemble, ici, dans ma maison, pour toujours. Quand vous verrez cette lettre, vous saurez qu'elle vous est destinée et que Tarzan des grands singes vous aime. Donc il laisse ça dans la cabane. Alors, évidemment, ça va faire un choc, mais toujours est-il qu'au moment où il finit d'écrire son mot, il entend un hurlement dans la forêt. C'est Jane qui a encore été enlevée. Et donc, il bondit comme une panthère, il la rattrape, il tue la brute et il récupère Jane dans ses bras. Et parce que l'autre singe avait l'intention d'en faire une femelle, comme dit Burroughs, la tribu avait gardé ses femmes et il devait en trouver d'autres pour les remplacer. Cette guenon blanche sans poils serait la première de sa nouvelle maisonnée. Donc... Jane, qui était dans les bras de ce singe-là, dit Burroughs, elle gardait l'esprit très clair, se rendait parfaitement compte de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et après son aventure arboricole, Tarzan la sauve. Et à ce moment-là, Jane, c'est la seule fois dans tout le roman où elle s'emporte, elle se laisse aller plus exactement. Description de Rice Burroughs. Donc coup de foudre, hein. C'est pas dit dans le livre, mais coup de foudre pour son sauveur, Tarzan tombe des arbres. Le combat entre les deux prétendants est titanesque. En un instant, le voile des siècles de culture et de civilisation tomba devant les yeux de la jeune fille de Baltimore. Tarzan sort victorieux et, écrit Burroughs, c'est une femme de l'âge des cavernes qui s'élança, les bras ouverts, vers l'homme qui venait de se battre pour elle et de le gagner. Tarzan, sans mot dire, mais laissant s'exprimer un corps qu'il ne connaissait pas encore et tout aussi éberlué que Jane, d'obéir à ce nouvel instinct, il prit la femme dans ses bras et couvrit ses lèvres offertes et frémissantes de baisers. Quant à Jane, voilà qu'elle passe du statut de feuillie à celui de femme, même peut-être de maîtresse directement. Et pendant un instant, les yeux mi-clos, Jane Porter se laissa emporter par un tourbillon et pour la première fois de sa vie, elle sut ce que signifiait l'amour. Donc, ça a duré quelques brefs instants. Immédiatement, Jane s'est reprise. Tarzan a été très gêné. Il s'est enfoui la tête dans les mains, très gêné d'avoir fait ce qu'il avait fait. Jane s'est reculée, a repris ses petits airs anglais. Et finalement, il l'a quand même emporté dans la jungle et ils sont restés très prudes, apparemment, l'un envers l'autre. Mais ils sont restés un petit moment quand même dans les bois. Et donc, à ce moment-là, Jane, En bon sociobiologue, darwinienne commence à observer Tarzan et elle trouve qu'il a des très beaux gestes, très nobles, qu'il a une belle allure. Elle le voit marcher pour aller chercher des fruits. Et pendant qu'elle le regardait, les yeux mi-clos, elle ne put s'empêcher d'admirer la grâce de sa démarche, les proportions remarquables de son corps et le port parfait de sa tête sur ses larges épaules. Par la suite, elle l'observa, se pencher gravement comme un courtisan de l'ancien temps et poser ses lèvres sur l'endroit que ses propres lèvres avaient effleuré. C'était un petit compliment, galant et élégant, tourné avec la grâce et la dignité que donne seul l'oubli total de soi-même. C'était la marque de sa naissance aristocratique, l'affleurement naturel de plusieurs générations de raffinement et d'éducation, un instinct héréditaire des bonnes manières qu'une jeunesse de vie sauvage et grossière passée au cœur d'un monde brutal n'avait pu effacer. Donc voilà. Donc Tarzan, on hérite directement de sa condition. Alors je passe sur le problème de Jane qui ne s'intéressait pas à analyser ses sentiments, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait, mais elle était très contente, etc. Elle se sentait très en sécurité dans les bras de Tarzan, et en tout cas elle savait qu'elle pouvait se fier à lui, qu'il était très bien élevé. Donc il leur manquait qu'une chose, rajoute Jane, et ça c'est intéressant, il ne lui manquait que la conversation pour être un homme complet, quoi. Et évidemment son problème c'est qu'il ne parlait pas anglais. Et elle lui dit: quel dommage que vous ne parliez pas anglais. Et elle se demande comment elle va le ramener chez elle, parce qu'elle est dans un milieu victorien, etc. Et elle dit non, quand même il est pas mal. Et elle lui prend la main et elle décide de le ramener vers la cabane où il y a son père. Mais Oedipe évidemment veille sur la société humaine, et il y avait un triangle un peu compliqué entre son prétendant, son père, Tarzan, elle ne sait plus comme ça, etc. Ce qu'elle est certaine, c'est qu'elle aime cet homme qui l'a sauvé de la mort. Elle pense que ce n'est pas du tout le même amoureux qui a laissé le mot dans la cabane, parce qu'il ne peut pas, s'il sait écrire, il ne sait pas courir, si je puis dire, etc. Et finalement, Tarzan décide de ne pas se présenter au père de Jane Porter, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas parler, il va me prendre pour un singe, etc. Et les dernières paroles de Jane avant des années et des années, Tarzan reprend ce bar dans la forêt. « Revenez-moi encore, je vous attendrai toujours. » Et donc et Tarzan repart dans la forêt. Et il va lui revenir, ça c'est très amusant, beaucoup beaucoup plus tard, en Amérique, à Baltimore. Parce que entre-temps, donc Porter repart. Enfin bon, c'était un trafiquant. Il cherchait des défenses d'éléphants, du zinc, de l'or, de l'argent, enfin etc. Donc l'expédition scientifique repart. Tarzan reste dans son coin, mais il est quand même très accro à Jane. Et finalement, il s'en va en Amérique parce qu'entre-temps, il rencontre un lieutenant de vaisseau français qui a lui-même fait naufrage sur les côtes de l'Afrique, qui va lui apprendre d'ailleurs le français. Tarzan parlait français, pas anglais, c'est assez amusant. Et il va apprendre l'anglais quand il va à Londres plus tard. Et finalement, il va revoir Jane dans un ou deux volumes plus loin, non, peut-être le volume d'après, à Baltimore, où Jane est dans la forêt en train de se promener. Voilà que la forêt prend feu. Et elle se dit comment je vais m'en tirer, et elle prie Dieu, etc. Et à ce moment-là, elle entend venir des arbres une voix qui fait « Jane !» Et Jane lève les yeux à Baltimore sur un arbre. C'était Tarzan qui arrivait, qui entre-temps avait appris l'anglais, etc. Il est arrivé en bagnole, il a eu le temps de monter dans un arbre, de sauver Jane, l'enlever, etc. Et il l'a... Ah non, non, là, il était costumé, il était parfaitement civilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Tarzan réutilise, j'allais dire, sa première culture, sylvestre, et il sauve Jane en s'accrochant de branche en branche, etc. Mais par contre, il est en voiture, donc il redescend de l'arbre, il prend la bagnole, et dans la voiture, il y a trois pages extraordinaires d'un petit couple nullos qui se raconte, qui dit « Ouais, t'aurais pu m'écrire, même pas, etc. » C'est extraordinaire. Et en fait, Tarzan a appris, je ne sais pas si vous avez vu le film Greystoke, mais à un moment donné, Tarzan apprend qu'il est le fils de Lord Greystoke. Donc il sait qu'il a une fortune. Mais le problème de Jane, c'est qu'elle ne peut pas épouser un homme de rien. Il faut absolument qu'il soit noble à la hauteur de sa condition à elle. Et donc, elle ne sait pas. Et Tarzan lui demande, mais est-ce que tu veux m'épouser? Elle fait un petit oui, comme ça, vaguement, etc. Et dans sa tête, c'est impossible, je ne peux pas épouser ce pauvre mec, il n'a pas un rond, pas de château, pas de fortune, pas d'éducation, et encore, je pourrais en faire quelque chose, il a appris l'anglais, c'est pas mal. Et il y a 3 pages, mais c'est extraordinaire de technologique, si je puis dire. Et alors là, c'est assez marrant, parce que c'est 3 pages de malentendus, et en fait, Jen... n'a pas encore compris qu'il n'y avait qu'un seul Tarzan. Elle croit toujours qu'il y a 2 Tarzans. Il y a l'homme des bois et l'homme de l'écriture. Et il lui dit, mais je m'appelle Tarzan, Tarzan tout court. Il se nomme Tarzan tout court. Oui, mais moi j'ai connu Tarzan des grands singes. Oui, moi je suis Tarzan tout court. Oui, mais moi je connais Tarzan des grands singes, etc. Alors il finit par dire, mais m'aimez-vous? Et toujours dans la voiture, Jen lui avoue qu'elle est promise à un autre par son père. Mais Tarzan sait qu'il est le fils de Greystock. Tarzan comprend qu'il est jugé. Il sait aussi à ce moment qu'il est peut-être l'héritier direct de Lord Greystock, ce que Jen ignore. Il fait le modeste. « Je ne connais pas l'éthique de la société qui est la vôtre, vous savez mieux que moi. » Jen peut juger des progrès considérables chez cet homme, mais à sa demande en mariage, elle ne chuchote qu'un petit « oui » qui est un « oui » à l'amour, pas un « oui » au mariage, dont elle ne peut pas imaginer les termes du contrat. Donc c'est à ce moment-là que la légende va bifurquer, enfin, c'est ce que je raconte dans mon travail, si vous voulez. C'est que dans l'histoire de Jen, ce sont aujourd'hui les feminist studies qui sont emparées de l'histoire de Jen, femme de Tarzan, et qui vont d'ailleurs se baser pas directement sur le travail de Burroughs, qui à mon avis est beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, mais sur les films. Et sur le fameux Tarzan of the Apes, où on voit toi Jen, moi Tarzan, etc. Et ça a été repris éternellement, mais c'est le dialogue du film. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Mais les féministes américaines ont donc repris Jen. Et il y a un chercheur qui s'appelle Barbara Creed qui a écrit un article qui s'appelle Me Jen, You Tarzan, A Case of Mistaken Identity in Paradise. Et elle revient sur le cas de Jen, où naît la légende de « Moi Jen, toi Tarzan ». Et voilà ce que raconte Creed. Mais c'est intéressant de voir comment à chaque époque on peut lire l'histoire de Jen. Donc pour Barbara Creed, Jen c'est une femme qui, outre le fait qu'elle doit renoncer à sa coquetterie, à son confort et au plaisir matériel de la femme moyenne américaine, est quand même coincée dans un triangle de 3 figures mâles, le père, Tarzan et le gorille. Donc, elle est, dit Creed, constamment menacée par le côté sombre du désir sexuel masculin, dont l'issue bestiale est clairement présente. Et Creed dit qu'en fait, si dès le début de son idylle avec Tarzan, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec lui, c'est parce que c'est son père qu'elle aime et qu'elle a d'abord besoin de dire à son père qu'elle aime et d'être sûre qu'elle l'aime pour pouvoir aimer l'autre, etc., etc. Au moment de l'enlèvement de Jen, il y a un passage extraordinaire. Quand Jen est enlevée, son père, quand même relativement bien sa fille, renifle ses vêtements et pleure sur sa fille, etc. L'histoire, si vous voulez, c'est que y a dans cette lecture de Jen l'idée qu'en fin de compte on se retrouve avec Jen qui est désocialisée du point de vue de sa féminité, il faut qu'elle accepte de pouvoir vivre dans un univers de Tarzan qui serait un univers masculin mais qui est en plus soumis à un ordre naturel de la forêt, ça voudrait dire qu'elle devrait accepter le désir naturel, et ce désir naturel correspondrait à des désirs sexuels non réfrénés qui seraient liés à la rencontre d'un monde primitif. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un article des années 90. Et je pense que la lecture qu'on puisse avoir du monde dit sauvage comme ça par rapport au chaos sexuel qu'étaient les thèses de Lévi-Bruhl ou d'autres, etc., moi, ça me pose toujours question. Toujours est-il que est-ce qu'on peut sortir du monde humain pour rentrer dans un monde animal? Est-ce que fréquenter Tarzan, c'est fréquenter le monde animal? Est-ce que c'est... Alors, à chaque fois, on retrouve la sexualité au bout de cette histoire-là. Mais en même temps, en allant rejoindre Tarzan, si Jen rejoint Tarzan, c'est qu'elle rejoint aussi Mother of the Earth, la terre-mère. Et ça veut dire aussi que Jen va rester maîtresse de son rôle de créateur et de destructeur de vie si elle le veut. Donc, nous nous trouvons en face, comme dit Creed, d'une épistémologie de la victoire fondamentale de la pensée humaine sur l'univers muet des choses. Bon, je n'ai pas bien compris, mais elle voudrait en tout cas que Tarzan puisse parler avec elle sans retenue. Et elle montre comment l'univers hétérosexuel de la relation Jane-Tarzan développe un dialogue confus. Et effectivement, la confusion de l'identitaire, ce qu'on dirait aujourd'hui des genres, est intéressante puisque ça commence dans le film. Un dialogue confus, hétérosexuel et inoubliable commence alors où elle lui explique qu'elle est « me », que Tarzan n'est pas elle. « No, to you, I am you ». Donc elle continue « No, I am you, no, you are me, no, me, you are me, you are no », etc. Et ça se finit « Me, Tarzan, you, Jane », et c'est Tarzan qui clôt le dialogue en disant « Maintenant tu la fermes, c'est moi le mec et tu te tais ». Donc Jane, c'est au paradis de Tarzan, c'est une source inépuisable d'études en tout genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a même utilisé Lacan. Je cherchais la phrase de Lacan qui est formidable. Ah oui, c'est ça. Elle utilise Creed à propos de Tarzan of the Apes et surtout de Jane. Alors, une femme n'est pas tout. Elle existe dans une relation au second degré dans l'apparition d'un monde symbolique où il est besoin d'une relation qualifiée dans la mise en représentation de la différence des sexes. Vous avez compris. Donc c'est... Comme disait Lacan, il faut toujours avoir le plaisir de parler chinois dans sa propre langue. Donc, donc voilà. Donc finalement, Jane reste assise à côté de Tarzan. Et elle va devenir la propriété de Tarzan jusqu'à la fin de sa vie. Dans aucun des romans, même chez Jungla, etc., Tarzan ne trompe Jane. Il est assailli par les femmes, vraiment absolument partout. Il va à un moment donné une société d'Amazon, etc. Et il ne faillit jamais. Il est formidable, Tarzan. Jamais la culotte ne craque. Donc c'est Tarzan, l'homme total. Voilà, donc à peu près... L'histoire de Tarzan, quand on la lit comme ça. Et aujourd'hui, il y a théoriquement un nouveau film de Tarzan qui se prépare. Eh bien, vous avez compris, ça va être l'Homo Ecologicus, c'est Tarzan, l'homme écologique. On n'est donc plus dans Greystoke, qui était vraiment d'ailleurs un très beau film. Je trouve sans doute le plus beau film sur Tarzan, sur le darwinisme, parce qu'il y a cette scène magnifique. Vous savez qu'on avait ramené justement le père singe de Tarzan avait été enlevé de la forêt, ramené. Et quand il s'enfuit du laboratoire, enfin Tarzan les libère, il s'enfuit et il se fait tuer par un garde du zoo ou du laboratoire. Et Tarzan dit c'est mon père que vous venez de tuer. Donc Tarzan va repartir en Afrique. Et dans l'histoire de Westboro, c'est assez joli parce qu'en réalité, il saute du bateau, on le fout à la mer. Il y a une histoire encore de mutinerie à bord du bateau. On le met à la mer au large de l'Afrique. Et comme le saumon, Tarzan nage jusqu'aux côtes et rejoint exactement les fameuses côtes, latitude 10 de la côte africaine, etc. On n'a jamais pu savoir où c'était. Et Rice Bruce n'a jamais été en Afrique de sa vie. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, la lecture qu'on puisse faire de Tarzan, c'est que, en dehors de... J'appelle ça des scories parce que je pense que c'est plus intéressant que ces scories racistes, colonialistes, machistes, sexistes, etc., qui encombrent peut-être Tarzan, mais si on n'y fait pas attention, on peut les passer aussi. On peut retenir l'intelligence de Tarzan, c'est-à-dire son intelligence au sens d'inscription dans un univers total. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a beaucoup de notations naturalistes, je vous ai dit, chez Rice Bureau, comme par exemple de faire attention à la nature, de ne pas tout dévaster, de conserver certaines plantes. Et à un moment donné, il dit « La nuit, Tarzan menait les singes au champ des hommes noirs. Là, Tarzan veillait à ce qu'ils mangent seulement ce dont ils avaient besoin et qu'ils ne détruisent pas le reste. » Donc il y a quand même tout le temps une attention. C'est quelqu'un, Tarzan, d'extrêmement fin, qui est toujours... il a des bonnes manières, effectivement, et il fait attention à l'autre, ça c'est certain. Et aujourd'hui, eh bien, le Tarzan du XXIe siècle, c'est évidemment indissociable d'une humanité au sein, si vous voulez, de l'histoire de la nature. C'est à mon avis là aussi peut-être d'ailleurs le film qu'ils vont faire, c'est, je vous l'ai dit, c'est un film sur la question naturelle et sur le rapport de l'homme avec je veux dire les animaux au sein de la nature comme étant une société aussi complexe que les sociétés humaines pour les sociétés animales. Voilà.